Sébastien Biquet, bonjour. Très heureux de vous rencontrer à la Foire du Livre à Bruxelles, où vous venez présenter le Match du siècle paru aux éditions Dupuis. Comment avez-vous rejoint ce projet qui avait été écrit par Julie Billon?
Alors, bonjour. Alors, Julie et moi, on est amis depuis longtemps. Et en fait, c'est venu parce que un de ses amis est un universitaire spécialisé dans le sport. Et il lui avait parlé de cette histoire de ban, d'interdiction aux femmes de jouer au football en Angleterre entre la Première Guerre mondiale et jusqu'en 1975. Et quand elle m'a parlé de ça, de ce monde un peu ouvrier féminin qui mélangeait les usines, le foot, l'effort de guerre, le syndicalisme, tout ça, je lui ai dit que je trouvais ça formidable et que si elle était capable d'écrire une petite histoire là-dessus, je serais ravi de l'illustrer.
Et quelle fut votre première réaction en découvrant donc le scénario? Ça correspondait à votre attente?
C'était même un peu plus ambitieux que ce que je pensais. J'avoue que je pensais que ce serait comme on en avait parlé, on va dire le début du ban. Donc le moment où les femmes remplacent les hommes dans les usines pour l'effort de guerre et prennent la place des hommes dans les équipes de foot affiliées aux usines. Et qu'on allait rester là-dessus. Et finalement, dans le développement, Julie, elle a poussé l'histoire jusqu'à la fin du ban, en 1975. Donc, en abordant non seulement le début glorieux de l'aventure du foot féminin, la réaction face à l'interdiction, et puis surtout la vie clandestine, les matchs clandestins, même la Coupe du Monde pirate qui va être organisée.
En Italie.
Voilà.
Ouais. Voilà. Et comment s'est organisée votre collaboration pendant la création de cet album? Le scénario était déjà écrit, elle vous l'a soumis ou il y a eu un travail d'ensemble?
Alors en fait, elle avait fait un traitement pour la narration globale, donc c'est le récit est séparé enfin c'est deux lignes de récit. Il y a eu on va dire l'histoire du match du siècle
avec un grand H à honorer.
Voilà, où c'est vraiment ce match qui a rassemblé 65 000 spectateurs et qui a été pendant très longtemps le plus gros, le match qui a été le plus suivi dans un stade. Et comme des chapitres, et en même temps l'histoire de ces femmes avec comment elles ont découvert le football, comment elles se sont mises à jouer, comment le succès a grandi. Donc ça, elle est venue avec ça. Et après, il y a des choses qui étaient très claires en sa tête où j'ai pas eu vraiment, je me suis contenté d'illustrer. Et puis d'autres choses que j'ai pu par le storyboard vraiment pousser un peu plus. Toi.
Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré dans cette histoire sur le plan graphique?
Alors le plan graphique, l'aspect. Enfin moi, j'ai eu en fait quand elle m'a parlé de l'histoire,
une vision.
J'ai eu une vision. Voilà, j'ai vu des terrains de foot un peu bouillassous avec de l'herbe pelée là tout autour, des usines qui fument. Et là-dessus, des ouvrières un peu costauds avec des grosses chaussures, des gros stocks là et des gros protège-tibias en bois qui cavalaient dans la boue. Et c'est ça qui m'a d'abord sauté aux yeux, quoi. Le mélange classe ouvrière, combat dans la boue, un peu aussi.
C'est plus que du rugby finalement.
Ben, c'est presque plus près du combat de tranchées de la Première Guerre mondiale justement. Dans la boue, ouais, c'est vrai.
Quand on dessine une fiction, est-ce qu'on peut se permettre malgré tout de s'inspirer de la réalité, comme pour peindre Rose Martin, vous êtes inspiré de Lily Parr ou les Dickers Ladies pour les Newton Ladies?
Alors, pour les maillots, je suis resté assez fidèle. Par contre, pour les personnages, c'est le problème. Hein, c'est un peu aussi ça que ça dénonce, c'est que c'est un peu des oubliés d'histoire, donc il n'y a absolument pas de.
Peu de documentation.
Ah, il y a pas grand-chose. Ouais, on connaissait 2-3 joueuses. Lily Parr qui a sa statue au Hall of Fame de football à Liverpool. Mais sinon, tout le reste, c'est un peu un grand mystère. Malheureusement, c'est pas si surprenant que ça. C'est vu que je savais même pas qu'elles avaient quand c'était interdit.
Ça existait.
Que tout ça existait. Donc c'est pour ça qu'on a eu recours à la fiction aussi. Et Julie voulait pas raconter l'histoire d'une équipe, mais de toutes les équipes féminines. Ou c'est pour ça que s'il valait mieux passer par la fiction. Ouais.
Dessiner un match demande beaucoup de dynamisme. Comment travaillez-vous le mouvement et la tension dans vos planches?
Bah alors, c'est une bonne question. J'ai regardé beaucoup de
des matchs féminins ou des matchs vraies.
En fait, des matchs, c'est même pas, c'est des actions en particulier. De comment accélérer le mouvement, comment se rendre compte où on est sur le terrain avec des plans serrés par exemple pour accélérer l'action. C'était ça, je pense, le plus difficile. Et moi, je bosse vachement en silhouette, en déformant un peu la perspective, en élargissant, en prenant une focale assez courte pour avoir l'impression de
le mouvement.
Ouais, de mouvement. Ouais. J'ai un peu triché avec ça.
Est-ce que vous avez dû adapter votre style pour servir le sujet, ou c'est à l'univers sportif?
Je sais pas. Je pense que de toute façon, c'est venu naturellement. Et puis je pense que j'adapte naturellement avec ce que je raconte. En fonction de ce que je raconte, comme je disais, je viens du film d'animation, donc j'ai toujours besoin d'adapter à ce qu'on raconte. Ouais, donc j'ai fait pareil. C'est venu assez instinctivement.
Qu'est-ce qui est le plus ardu, les scènes de guerre ou les scènes de match?
Les scènes de match, définitivement.
Ouais. De nouveau, par ce mouvement-là qui
a... En fait, c'est quand on regarde. Comme un match, on a besoin pour voir le mouvement du ballon, d'où il part. Par exemple, s'il y a une action qui part du gardien, qui a 3-4 passes avant d'arriver à la surface, il y a un centre, du dribble, machin. On peut pas raconter tout ça. Donc il faut choisir quelques moments clés dans la remontée du ballon pour arriver à cette impression comme un best-of d'une
skill. Quel est le geste de foot qui est le plus difficile à décider?
Le passement de jambes, je dirais.
Ouais,
enfin, comme ça.
Le football féminin, vous avez regardé plus particulièrement des gestuels. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique chez les femmes qu'on a pas?
C'était aussi un postulat de départ. C'était vraiment faire du... Aussi la partie historique, la partie féminisme, la lutte des classes, tout ça, mais aussi une partie... fun, presque dessin animé dans le football. C'est pour ça que des fois il y a des trucs. D'ailleurs, on me l'a pas reproché, mais ouais, que les scènes de match sont c'est diffusé, c'est des retournées acrobatiques, des contrôles, des grandes passes, plus croche du foot.
Vous êtes salé.
Ouais, voilà.
Vous êtes
un... J'ai plus regardé, je dirais même pas le foot masculin, mais j'ai plus regardé des joueurs que j'aime bien, des Ronaldinho, des Messi,
Le show.
Ouais, le show. C'était vraiment un spectacle pour justement un peu détendre
Mais qu'on voit quand même ici aussi, il y a du show quand même, hein, chez vos joueuses, hein.
Ah bah ouais, c'est ça. Je ne sais pas poser la question, homme-femme, il faut que, parce que c'était vraiment l'équipe qui a marqué son temps, comme dans l'histoire, je sais pas si déflore un peu le truc, mais elles sont amenées quand elles jouent dans la clandestinité, elles vont faire une tournée aux États-Unis et elles jouent contre des hommes. Et elles les battent. Donc je me dis que on peut quand même se permettre de se dire que c'est une équipe vraiment au-dessus du lot et formidable et qu'elle mérite un peu de respect et d'être comparée à des joueurs immenses. Et si quand même j'ai aussi comme joueuse féminine, j'ai pas mal inspiré de Megan Rapinoe, la joueuse américaine la plus capée. Ouais. Dans sa gestuelle, dans sa
fureur. Médiatisée aussi.
Si c'est vrai.
Comment avez-vous travaillé pour différencier graphiquement chaque joueuse? Parce que finalement, on a un groupe, mais en même temps, chacune a une personnalité, non?
Je crois que c'était ça le plus difficile, en fait.
Ouais.
Par rapport à scène de guerre ou scène de foot, c'était de réussir à avoir tous ces gabarits et que le lecteur soit pas perdu au bout d'un moment. J'ai essayé de trouver des codes très différents, des proportions différentes, des nez différents, et puis une gestuelle aussi, la gardienne qui est plutôt massive et qui a tout le temps froid et qui râle, la petite jeune qui est super dynamique, hyper positive, qui y court à toute allure. Et aussi, je me suis pas mal inspiré justement du comportement de certains joueurs pour les faire courir. Je me rappelle plus quelle joueuse, mais je me suis beaucoup inspiré de la dégaine d'Mbappé, quand il remonte le terrain en courant à toute berzingue, de Rose d'ailleurs, je crois. Ouais.
Faire du foot, c'est un acte politique, dis-toi, à un certain moment. Est-ce qu'on peut dire que votre BD, c'est aussi un acte politique?
C'est une bonne question aussi. Je dirais ouais, vu que c'est, ça porte des valeurs quand même.
Parce que c'est vrai qu'on peut élargir le débat.
Ouais, ouais.
Il y a quand même des propos à l'égard du conservatisme, la domination des hommes, le patronat. Enfin, je veux dire, c'est, tout ça se trouve aussi dans cette BD quand même. Hein.
Donc ça évidemment ça a une portée politique sans en avoir l'air et sans le revendiquer en fait. Je pense ouais. On peut trouver cette lecture, on peut avoir cette lecture du livre bien sûr. Et on peut aussi ne pas l'avoir et passer un moment de long ouais.
Le récit est entrecoupé de multiples flashbacks du fameux match de mars 2020. Quelle idée, comment vous avez réparti ces...
Alors l'idée de séparer ça, d'avoir ce fil rouge, ce fil conducteur de l'histoire, c'était c'est Julie qui a eu l'idée. Hein, en fait, le but c'était d'illustrer dans ces quelques pages qui rythment un peu le bouquin, d'avoir un petit résumé de la vie des joueuses à l'usine. Au début, elles gagnent, elles mettent des buts, elles mènent, parce que dans la vie dans l'usine, elles sont dans l'émancipation, elles prennent un peu le pouvoir, elles commencent à jouer, à avoir du succès, et puis au fur et à mesure quand le ban est voté, on voit que sur le terrain c'est un peu l'illustration aussi de ça que elles se font rattraper, elles sont menées peut-être même, et on attend le dénouement final des deux, de la vie et du match. Voilà.
Votre passé dans l'animation vous a-t-il aidé à découper ces séquences de jeu comme des véritables séquences de films?
Ouais, pour moi tout ça c'est un peu pareil. Ouais. En tout cas, d'avoir des images, des compositions d'images très cinématographiques, ça c'est sûr.
Juste de travailler avec des storyboards.
Ouais.
Ouais, ça, ouais. Ça renvoie davantage peut-être au film d'animation, ça, non?
En tout cas, dans les enchaînements de plans, ouais. Mais comme c'est enfin, ouais, je viens de l'anime, donc le storyboard, il a un cadre fixe tout le temps le même. Alors que dans la bande dessinée, on peut se permettre d'avoir des cases verticales, des cases carrées, tout ça. Mais je pense, en tout cas, le fait d'avoir toujours un plan d'exposition, jouer avec le rythme, gros plan, plan large, de rentrer dans la tête du personnage, je pense que, ouais, ça m'a aidé d'avoir cette expérience, cette expérience de l'animation. Et puis même pour avoir des décors pertinents, on va dire, les intérieurs d'usine et tout ça. Cette partie-là, ouais, c'est mon métier en fait de faire ça dans l'animation.
Petit flashback après les Gobelins, tourné vers le cinéma d'animation 2007. Donc vous êtes graphiste maquettiste sur tout ça de l'Ouest, d'aventure de Lucky Luke, qui avait été co-scénarisé par Goscinny.
C'est bien renseigné.
Ouais.
Bien renseigné.
Et puis, le rêve américain, quand même. Vous arrivez chez DreamWorks Animation. C'est vous qui frappez à la porte ou on vous appelle?
Alors, il manque une petite étape clé, voilà. En France, j'ai bossé un petit peu, dans divers studios. Et j'ai notamment eu la chance de bosser sur Un Monstre à Paris, où j'étais chef d'éco, et c'est vraiment là en fait où je suis passé de tout ça l'ouest, c'était particulier, mais pour avant j'étais un peu entre la pub et la série télé quoi, et de passer dans le milieu du long métrage, ça a vraiment été une grosse étape dans ma carrière. Et en fait, c'est là que j'ai rencontré des artistes assez formidables, hein, hyper talentueux, hyper tout ce qu'on veut, enfin, des crèmes de bons hommes, quoi. Notamment alors qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Il était peintre, je crois, sur le projet. Et c'est lui qui est parti d'abord à DreamWorks et qui a proposé mon portfolio au studio. Ça va? Et bah, ça a plu et ils m'ont contacté après.
Et donc, vous vous retrouvez visual development artist, character designer, et grâce à l'extraordinaire ability contract. Ouais. C'est magnifique, ça fait chaud quand même.
Ouais. C'est un contrat, c'est marrant parce que ça a l'air superbe et puis,
vous avez déchanté?
C'est réservé, j'ai déchanté. Alors, d'abord, ça a l'air superbe parce que c'est réservé aux athlètes de haut niveau, aux artistes. Ah, ouais. Je vous laisse deviner dans quelle catégorie.
Et bah, y a quand même allez, le Crowds, et puis bon, il y a Troll de 2016, et puis qu'est-ce qu'il y a eu? Abominable quand même aussi.
Ouais, il y a Puss in Boots qui a été nominé aux Oscars. Il y en a pas mal. Ouais, ça c'était une bonne part de ma carrière. Et puis toujours, je continue à bosser pour eux à distance. Et j'ai déchanté, j'ai pas vraiment déchanté, mais c'est juste que c'est un visa qui n'inclut pas le permis de travail pour les épouses. Enfin, pour mon épouse, elle a pas travaillé, donc on savait que ça allait.
Elle n'a pas eu la green card.
La green card, rester. La green card, c'est pareil, c'est quelque chose qui est excessivement cher. Et si c'est le studio qui paye, ils ont tendance un petit peu à ralentir le mouvement parce que ça veut dire qu'après on peut partir. En fait, quand on est sous visa, on est un peu.
Sous leur
c'est eux qui voilà c'est eux qui ils gèrent notre vie quoi donc à un moment donné c'est vrai que ça peut faire bon j'en fais je dis j'ai trouvé ça super j'ai rien à redire on est resté 5 ans c'était parfait mais pour rester plus il aurait fallu
quand vous étiez dans la zone où vous ouais, aviez le matin ou
j'étais à Dornoch
ouais
j'allais en vélo studio ouais il y en a pas beaucoup qui font ça
non Hollywood
ouais.
Et c'est quand même un chouette souvenir non
c'est super.
Ouais. Vous restez en contrat en freelance avec eux?
Ouais.
Comme avec Netflix et Paramount aussi?
C'est Warner, ouais. En fait, ça, c'est vrai que c'est les avantages, on va dire, du Covid. Avant, on pouvait pas faire ça. Et comme, ils se sont rendus compte que finalement, on peut faire ça. Avec tout ce qui a été mis au coin de Zoom, de tout ça, ça marche très bien. Et puis, on c'est parti pour, parce qu'en fait, ils ont fermé les campus. Je sais pas si on s'est dit ça. Ils ont pas fermé, mais disons que il y a plus grand monde. En fait, tout le monde bosse un peu parce que les États-Unis sont c'est tellement grand qu'il y en a qui bossent sur la côte est, alors que le studio est sur à la côte ouest. Finalement, on pousse un peu. On arrive en France et ou en Europe. Ça change pas grand-chose.
Puis vous, hein, pour tout, vous travaillez sur Calamity. Non, vous l'avez pas fait.
Non,
j'avais cru. On voit que vous étiez fixe animateur là.
Ah non,
pas moi.
C'est pas moi.
Mais il y avait le problème du Covid pour ce film-là. Comme vous disiez, c'est vrai que ça a perturbé et peut-être créé d'autres synergies.
Je m'en rappelle pas si j'avais pas été contacté. J'avais dû passer peut-être un test. Mais ça, je sais pas où vous avez vu ça. Si je suis crédité, c'est très, c'est très bien.
Est-ce que c'était une belle expérience cet ouvrage-ci? Est-ce que ça vous donne d'autres opportunités ou au contraire vous dites c'était un one shot ou ça vous tournez plus sur au niveau de la BD développer peut-être plus est-ce que ce sont deux entre guillemets deux arts de différents celui de l'animation et la BD
de toute façon moi j'aime bien faire les deux. Je suis pas certain pour le moment, en tout cas, de pouvoir vivre de la bande dessinée à 100%, pas. La question se pose pas vraiment comme ça. Je vais sans doute. Enfin, je sais que je dois sortir une autre BD chez Dupuis, un truc que jeunesse, l'année prochaine. Et quant à celle-là, je sais pas. Ça va dépendre un peu de l'accueil que ça a.
Les plateformes, c'est une opportunité ou finalement on en arrive à une saturation aussi
pour le cinéma d'animation, ouais. En fait, il y a eu les années un peu fast qui ont commencé en 2015-16 où toutes les la création des plateformes donc tout le monde voulait du contenu. Donc les salaires sont un peu envolés, tout le monde voulait ses artistes, on était très demandés, il y avait pas beaucoup les trop peu d'artistes par rapport aux productions et là on est en train d'en revenir quand même.
Et l'intelligence artificielle, grosse question, pas MBA. Ça vous fait un peu paniquer?
Ouais, paniquer. J'espère que, ça va changer de métier. J'avoue, je vois pas bien l'intérêt de tout ça. Pour moi, l'intelligence artificielle.
C'est un concurrent quand même.
C'est une concurrence un peu déloyale parce que il y aura forcément besoin de quelqu'un derrière pour corriger les erreurs de l'IA. Et c'est un peu ce qu'on peut craindre, c'est que en tout cas, qu'il y ait un moment où les artistes vont juste être en train de réparer les erreurs de l'IA.
Plus que créer quelque chose.
C'est l'inverse. C'est l'inverse. Normalement, ça devait nous aider, nous, à faire des choses. Normalement, ça, l'IA doit aider à faire la compta, pas à faire pour qu'on ait plus de temps de faire de l'art, et pas l'inverse. Je serais curieux de voir, en fait, le premier. Pour le moment, on a un petit peu l'impression, peut-être, que ça, ils sont en train de toucher un plafond de verre ou du bluff. Mais c'est vrai qu'il y a déjà quand même, je sais pas comment font les juniors, je sais pas comment.
là où vous embauchez un junior pour faire un petit boulot de pour apprendre le métier, ben c'est vrai qu'il y a pour faire en, instantanément quoi. Donc je sais pas comment.
Ça reste paniquant quand même.
Ouais. Mais pour tout, hein, pour mais surtout c'est quel est l'intérêt.
Sébastien Piquet, un grand merci. Donc rappelle le match du C, paru aux éditions Dupuis. Merci à vous.
Merci beaucoup.